Voici comment l'ordre de la besogne était réglé entre moi, mes collaborateurs et mon organe indispensable, le typographe. Je remettais un lot de copies à M. Beaujean. Il le paraffait et l'envoyait à l'imprimerie. Mais je n'ai pas encore dit que cette imprimerie était celle de M. Lahure. M. Hachette l'avait désigné comme grand établissement pour un grand ouvrage. Et en même temps, il s'y était assuré d'un bon metteur en page et de bons ouvriers. Quand ils eurent sous les yeux un premier échantillon de mon manuscrit, ils refusèrent de s'en charger aux conditions ordinaires de la composition, et ils demandèrent une augmentation de prix qui leur fut accordée par M. Hachette. Ils narguèrent pour fonder leur réclamation ni de la mauvaise écriture, ni des ratures, ni des difficultés de lecture, mais ils déclarèrent que ce qui accroissait leur besogne et justifiait leur exigence était le vieux français de l'historique qui ne pouvait être composé couramment comme le reste. Avant de formuler leur demande, ils avaient soumis l'affaire à une sorte de conseil arbitral formé d'ouvriers qu'ils nomment le comité et qui prononça en leur faveur. En retour du lot de copies, M. Beaujean recevait un premier placard dont il corrigeait les fautes. Avec celui-là, l'imprimerie faisait un second placard. M. Beaujean le lisait, le corrigeait de rechef et inscrivait en marge ses observations. C'est ce second placard ainsi annoté qui m'était adressé. Il était formé de 4 colonnes de texte, équivalent à 4 colonnes de ce qui est aujourd'hui le dictionnaire. Ce même second placard était en même temps que M. Beaujean envoyé à mes autres collaborateurs et soumis à leur examen. Leurs observations ne négligeaient rien, depuis l'humble faute typographique jusqu'aux points les plus élevés de la langue, de la grammaire, de l'étymologie. Plus d'une fois j'ai frémi en voyant de quelles erreurs, qui m'avaient échappé, j'étais préservé par la scrupuleuse attention de mes réviseurs. Quand j'avais sous la main tous ces matériaux de correction, y compris parfois des notes personnelles que je pouvais avoir recueillies depuis l'envoi de la copie jusqu'à la venue du second placard, je me mettais à la besogne. Je lisais d'abord le placard, pour moi, et sans consulter le travail de mes collaborateurs. Et je le corrigeais à mon point de vue. Puis je prenais M. Beaujean, puis M. Julien, puis M. Sommer, et après lui M. Despois, puis M. Baudry, puis le capitaine André. Tout allait bien tant que les observations n'exigeaient ni un examen prolongé, ni une rédaction secondaire, ni des additions, ni des retranchements. Mais quand venaient celles qui soulevaient des questions épineuses, ou que je ne pouvais recevoir sans refaire mon texte, alors il me fallait réfléchir longuement pour prendre un parti et mettre résolument la main à la refonte de telle ou telle portion de l'article incriminé. Rien n'était plus laborieux que la correction de certains de ces placards prédestinés. On en jugera quand on saura que maintes fois, il ne quittait mon bureau qu'accru d'un cinquième ou d'un quart. Sans doute le plus long était le travail intellectuel qu'il me demandait. Mais, ajouterai-je, cette minutie qui, en fin de compte, n'en était pas une. Le travail matériel était long aussi. Obligé que j'étais d'ajuster sur le placard notes et bouts de papier, de manière que l'imprimerie pût se reconnaître dans le dédale. Combien de fois, quand j'étais au plus fort de mon embarras, n'ai-je pas dit, moitié plaisantant, moitié sérieux, « Oh, mes amis, ne faites jamais de dictionnaire !» Mais dépit vain et passager. C'est le cas d'appliquer le dicton picard rapporté par La Fontaine dans sa fable du loup, la mère et l'enfant. « Biauchir le, n'écoutez mi, mère tinchin, chien fieux qui crie. »« Beau sire loup, n'écoutez pas une mère qui gronde, un enfant qui crie. » Un tel placard, si surchargé, en exigeait un nouveau. Je le demandais donc, vérifiais les corrections, et l'adressais ainsi vérifié à M. Beaujean, qui donnait la mise en page. C'était un grand pas. Il avait coûté beaucoup de labeur, et un labeur tantôt très minutieux, tantôt très relevé. L'imprimerie ne se faisait pas attendre, et une première épreuve de mise en page arrivait à M. Beaujean, qui la lisait, y inscrivait ses observations et me l'envoyait. Autant en faisaient mes autres collaborateurs, qui recevaient aussi cette mise en page. Ceux qui ont beaucoup imprimé, et je suis du nombre, on y soit qui mal y pense, un jour M. Wittersheim, imprimeur et directeur du journal officiel, que je remerciais de je ne sais quoi, remarqua qu'un imprimeur devait être gracieux à qui avait tant occupé la presse. Ceux, dis-je, qui impriment beaucoup, ont éprouvé que bien des choses qui échappent en placard apparaissent visibles dans la mise en page. Chaque nouvel arrangement a sa lumière. J'étais certainement satisfait quand cette lumière m'invitait à quelque rectification ou addition de bon aloi. Mais je l'étais encore plus si aucune modification du texte imprimé ne s'imposait. Car en présence d'un changement nécessaire, mes transes commençaient. Tenu que j'étais à me restreindre dans les limites de la composition et à ne pas occasionner des remaniements toujours difficiles et coûteux quand ils forcent le cadre d'une mise en page. La plupart du temps, j'y réussissais à grand renfort de combinaisons et d'artifices de rédaction, comptant les lettres que je supprimais et les lettres par lesquelles je les remplaçais, et heureux quand le total était ce qu'il fallait. Des heures entières s'y employaient, mais en fin de compte, à force de dextérité, je rendis très rares les cas extrêmes où les remaniements ne purent être évités. Ce que j'ai ainsi consumé d'efforts, de patience, d'ingéniosité et de moments, il y a longtemps que je l'ai pardonné à ces laborieuses minuties. Car, à un point de vue plus général, elles n'ont pas été sans me servir, disciplinant mon esprit enclin en généralité et l'obligeant à se faire sa provision régulière de faits grands et petits. Quelque soigneuse que fût l'imprimerie, ces pages étaient d'ordinaire trop surchargées pour que je ne tinsse pas à vérifier moi-même si tout était bien comme je l'avais indiqué. Cette vérification faite, j'adressais l'épreuve à M. Beaujean, qui enfin donnait le bon à tirer. Régulièrement, il s'écoulait 2 mois entre la remise de la copie et ce bon à tirer définitif. L'intervalle était long, mais à voir équitablement les choses, à considérer par combien de mains l'épreuve passait, et à tenir compte des vues et des suggestions de chacun, on jugera qu'il n'était guère possible de demander plus de célérité ni à l'imprimerie, toujours pourvue de besogne, ni à M. Beaujean, cheville ouvrière, ni à moi, réviseur général. Quand il fut bien constaté que telle était la vitesse moyenne, je pus, en faisant l'estimation de l'accroissement de ma copie, calculer approximativement de combien d'années j'aurais besoin, car c'était par année qu'il fallait compter, pour atteindre l'achèvement. À supposer qu'il ne survint aucune de ces malchances sans lesquelles les choses humaines ne vont guère. Je craignais la maladie pour moi ou pour les miens, la perte de papiers égarés, l'incendie. Ce fut la guerre à laquelle je ne songeais pas qui m'interrompit. L'impression commencée dans le dernier quart de 1859 finit en 1872. Elle dura donc un peu plus de 13 ans. En 1859, j'avais près de 59 ans. En 1872, 71. Cet espace de vie humaine, long à tout âge, l'est relativement bien plus à la fin de l'existence. Pourtant, je le passais sans encombre et sans ralentissement. Mais l'inclémence du sort sévit par les événements extérieurs. La guerre de 1870 me fit perdre 1 an tout entier. Je me rends cette justice qu'en présence des dangers et des désastres de la patrie, je ne conservais aucune pensée pour l'interruption ou la ruine, car le pire était en perspective, de mon œuvre. Mes préoccupations étaient ailleurs. Hippocrate, qui fut ma première étude, nous apprend qu'une douleur plus forte amortit une douleur moindre. La douleur moindre fut le dictionnaire, et elle fut amortie. En réalité, déduction faite de l'année de la guerre, passée dans l'oisiveté de l'angoisse, l'impression avait demandé 12 ans. L'intervalle des 2 mois nécessaires à l'imprimerie pour amener de l'état de copie à l'état de bon à tirer un lot de mon manuscrit, fut mon salut, car il me permit de gagner sur elle. La condition du succès gisait en ceci, que pour chaque intervalle de 2 mois, la masse de copies consommée pour l'imprimerie serait moindre que la masse de copies que j'aurais préparée et conduite à l'état satisfaisant. Cet état satisfaisant consistait à intercaler tous les matériaux qui étaient amassés ou qui s'amassaient au fur et à mesure selon un plan déterminé, à me servir du dépouillement de tous les dictionnaires patois que j'avais pu me procurer, et à mettre à contribution, plus que je n'avais fait, les vastes recueils de Lacurne Sainte-Palais et de Pougin. En un mot, à transformer en texte définitif et répondant de tout point à mes vues cette première ébauche que, dans ma présomption, j'avais imaginée suffisante en quantité et en qualité. C'était beaucoup de besogne. Mais par une compensation qui m'animait d'un grand courage, mes tâtonnements m'avaient servi. Je procédais avec sûreté, et rien de ce nouveau travail n'était ni livré au hasard, ni perdu. À mesure que je gagnais sur l'imprimerie, en la façon que j'ai indiquée, ma réserve de copies toute prête grossit, et dès lors je fus assuré de demeurer vainqueur en cette lutte. L'imprimerie n'y avait point d'effort extraordinaire à faire. Elle n'avait qu'à être régulière, avec sa quantité de travail bien mesurée et son équipe bien dressée. Elle le fut. Mais à moi, c'était un effort extraordinaire de tous les jours qui m'était demandé, et cela pendant des années. Si je m'étais relâché, je compromettais mon avance, et je retombais dans les difficultés, voire dans les impossibilités, comparables au rameur de Virgile qui remonte le courant d'une rivière rapide et qui, si brachia forte remisit, atque illum in preceps prono rapid alveus amni. S'il s'est hasardé à baisser les bras, la barque l'entraîne en avant dans la rivière au fort courant. Géorgique 1, 202. Pour tenir tête à la consommation grande et ininterrompue de l'imprimerie, j'avais besoin d'un atelier qui disposa les matériaux, dégrossit la besogne, écarta les difficultés, soit matérielles, soit extrinsèques, et me procura toute liberté d'esprit pour bien étudier mon objet, grand ou petit selon l'importance du vocable, et en conformer la rédaction au plan général, aux documents qui y afféraient, aux divisions souvent multiples qu'il convenait d'y établir, et aux considérations variées, difficiles, subtiles, car tout cela pouvait se rencontrer, qu'il suggérait. M. Hachette n'opposa aucune objection à mes projets. Il m'aurait facilement trouvé des auxiliaires pour le service requis. Mais une autre combinaison me sourit davantage. Ce fut de prendre pour auxiliaires ma femme et ma fille, qui, témoins de mes perplexités, s'offraient de tout cœur à me venir en aide. Cet arrangement domestique avait, sur celui qui aurait appelé des étrangers, une supériorité que j'appréciais beaucoup. Ces auxiliaires, d'un genre nouveau, étaient constamment à côté de moi, m'interrogeaient sur ce qui les arrêtait et recevaient immédiatement et sur place toutes les instructions que le courant de la besogne suggérait. Pour cet office, M. Hachette mit à ma disposition 2 400 francs par an. 1 200 étaient pour ma femme et ma fille, 1 200 pour moi, car nous avions, tous les trois, besoin d'une indemnité temporaire. Ma femme et ma fille passaient moins de temps pour les soins de leur ménage, et moi, avec le courant absorbant du dictionnaire, je n'avais plus de moment pour certaines occupations accessoires qui me servaient à joindre, comme on dit, les deux bouts. Le res angusta domi, la contrainte domestique, dominait la situation, et j'en acceptais volontiers toutes les conséquences, c'est-à-dire le travail et l'économie. Le travail, soumis toutefois à cette règle, qu'il ne m'imposa jamais une besogne qui me déplut ou me répugna, et l'économie dirigée autant que possible de manière que le présent ne fût pas complètement sacrifié à l'avenir. Du reste, cette somme annuelle de 2 400 francs était simplement une avance. Elle figura dans la dette des 40 et quelques 1000 francs que je contractai envers M. Hachette et dont il sera parlé plus loin. À ma femme, maladive et débile, une somme mesurée de travail était seule possible, et même permise de par la médecine. Mais ma fille, jeune et pleine d'ardeur, consacra désormais son temps au service du dictionnaire. Cela était facile à la campagne, où nous ne recevions guère de visiteurs que le dimanche, jour d'ailleurs consacré au repos, excepté par moi, qui, donnant à mes hôtes le milieu de la journée, employait comme d'habitude la matinée et la nuit. La difficulté était plus grande à Paris, où la vie est plus dérangée. Néanmoins, tout compensé, et des réserves étant faites pour des distractions plus utiles que jamais, comme le nulla dies sine linea, pas un jour sans une ligne, du dicton latin, était pratiqué à la lettre. La construction de mon édifice lexicographique procéda avec la continuité qui seule mène à fin les grandes besognes. Les coups de collier intermittents, quelque énergiques qu'ils soient, y valent peu. Ce qui y vaut, c'est l'assiduité qui ne s'interrompt jamais. Mon atelier et moi, nous procédions ainsi. Je notais sur le dictionnaire de l'Académie française 15 de ces pages. C'était la tâche pour 15 jours. De la sorte, je pus, à la condition d'être fidèle à ma consigne de travail, connaître exactement quand j'aurais terminé ma refonte. Dans ce premier dictionnaire que j'avais rédigé, et qui n'était plus qu'une humble ébauche, fort utile néanmoins, je prenais la péricope correspondante aux 15 pages de l'Académie, et je la remettais à ma femme et à ma fille. Elles en transformaient les feuillets de manière que j'en pusse faire de la copie, c'est-à-dire qu'elles mettaient sur autant de feuillets séparés tous les accidents du mot, toutes ses acceptions et tous ses exemples. En même temps, elles avaient sous les yeux quelques lexiques, entre autres le grand Pougin, où j'avais noté au crayon ce qui se référait à nos 15 pages sudites.